Europe 1.
Ondelat raconte.
Christophe Ondelat.
Voici l'histoire d'un curé qu'on a assassiné. Plus que ça, on l'a éventré et on lui a coupé les roubignoles. Ça se passe à la fin du 19e siècle, 1882, dans l'Allier. Et c'est une histoire que je tire du livre de Roger Archaud aux éditions du Roure, Le crime de Saint-Arcon-d'Allier. Pour le débrief, je ferai appel à Marilyn Avon, responsable du pays d'art et d'histoire du Haut-Allier. Interview à retrouver dans un deuxième podcast. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Boris Pachinski.
Europe 1. Christophe Ondelat.
On est en janvier 1882 dans un petit village de Haute-Loire qui s'appelle Saint-Arcon-d'Allier. Il est 8 heures du soir, la nuit est tombée, il fait un froid de gueux et il neige à gros flocons. Au presbytère près de l'église, le curé, l'abbé Rivet, est au coin du feu à lire son missel. Et soudain, on frappe à la porte. Allons voir qui c'est à cette heure-ci. C'est la belle-sœur du curé qui va ouvrir. Oui, l'abbé Rivet vit avec sa belle-sœur, mais c'est parce que son frère est mort. Alors il s'en occupe. De toute façon, c'est pas le sujet. La belle-sœur ouvre et elle voit un homme couvert de neige, un barbu avec une casquette. Ah, que voulez-vous donc à cette heure-ci, mon brave? Ah, c'est mon maître, M. Martin de Rognac. Il a pris un coup de corne d'un taureau. Il est bien amoché. Il passera pas la nuit. Il faudrait que le curé vienne lui donner l'extrême onction. L'extrême onction? En pleine nuit? Avec cette neige qui tombe? Enfin, vous n'y pensez pas. Et donc, on rentre cet homme-là, qui se réchauffe. Bonjour, monsieur. Vous dites que monsieur Martin de Rognac est mourant? C'est cela même, monsieur l'abbé. Il faudrait que vous veniez tout de suite. Mais bien entendu que je vais venir. Oh, tu ne devrais pas. Avec cette neige, tu vas attraper froid. Je vais y aller parce que c'est mon rôle de prêtre. Attendez-moi ici. Bois cette nuit un peu de vin. Je m'en vais me préparer. L'abbé Rivet monte dans sa chambre, s'habiller chaudement. Et il revient avec un sac dans lequel il a mis tout son attirail de curé. Son missel, sa bible, son ciboire, son aube, son étole, sa croix et son huile sainte. Bref, tout ce dont il aura besoin pour donner les derniers sacrements à ce brave monsieur Martin de Rognac, qu'il ne connaît pas, mais qui est en train de passer de vie à trépas. Vous pouvez porter tout ça, mon brave?
Pour sûr, monsieur le curé.
Alors on y va.
Oh, mais tu devrais rester dormir là-bas, au moins, et rentrer demain.
La dame a raison, monsieur le curé. Je pense qu'on vous trouvera une chambre là-bas. Et de toute façon, je vous promets, madame, de revenir vers 11h pour vous dire ce qu'il en est. Et voilà donc le curé Rivet qui s'enfonce à pied dans cette nuit glacée avec cet homme qu'il n'a jamais vu. Une heure et demie plus tard, vers 9h30, l'homme est de retour, seul au presbytère. La belle-sœur est à l'étage dans sa chambre, alors elle ouvre un volet.
Mais qu'est-ce que vous faites là, mon brave? Et où est donc l'abbé?
Il sera là avant minuit. Un domestique va le ramener.
Mon maître, finalement, n'est pas mort et il va beaucoup mieux. J'ai dérangé le curé pour rien. Enfin, je suis venu donc pour vous dire que l'abbé va pas tarder à revenir. Oh, vous êtes tout gelé, mon pauvre. Entrez donc vous mettre au chaud quelques minutes. Je descends vous ouvrir. Oh, mais c'est pas de refus.
La belle-sœur descend. Elle ouvre la porte. Personne. Le type a disparu. Et là arrivent les voisins. Avec une lanterne, ils ont entendu du raffut. Alors ils viennent aux nouvelles. Bah, d'après ce qu'on a entendu, il y a quelqu'un qui est mort, c'est ça? Et l'abbé est allé lui porter des sacrements, c'est ça?
Oui, oui. Enfin non. Finalement, il n'est pas mort et l'abbé va pas tarder à rentrer. Mais restez donc pas là dans le froid. Rentrez vous mettre au chaud quelques minutes.
La belle-sœur et les voisins décident d'attendre le curé ensemble. Sauf qu'à minuit, l'abbé n'est toujours pas rentré.
Pourvu qu'il n'ait pas fait une mauvaise chute avec cette neige. On devrait aller à Rougnac pour voir tous ensemble, avec le garde champêtre.
Et voilà donc la belle-sœur, les voisins et le garde champêtre en marche pour Rognac. Arrivés là-bas, ils vont tout droit chez le fameux monsieur Martin, qui était soi-disant mourant et qui ne le serait plus.
Mais enfin, qu'est-ce que vous me racontez là? J'ai pas eu d'accident. J'ai pas failli mourir. J'ai envoyé personne chercher le curé. Ah ben ça alors?
C'est très inquiétant, tout ça. Mais on est en pleine nuit, en pleine campagne. Il gèle à pierre fendre, il neige. On verra demain.
Le lendemain matin à l'aube, les paroissiens de l'abbé Rivet se lancent dans une sorte de battue. Ils refont en long, en large et en travers le chemin qui va de Saint-Arcon jusqu'à Rognac. Et au bout de 2 kilomètres, ils tombent sur le cadavre du curé. La scène est terrible. L'abbé est sur le dos, nu. Il a été éventré au point qu'on voit ses tripes. Et on l'a émasculé. Ses roubignoles sont posées juste à côté sur sa soutane. On retourne le cadavre. Tout l'arrière de son crâne est défoncé.
Oh, quel malheur! Fouillez-y donc sa plisse qu'on voit si on lui a volé quelque chose.
On lui a tout volé. Et notamment sa montre en argent et sa tabatière en corne. Ses poches sont vides.
Mais pourquoi donc l'a-t-on massacré pour lui prendre si peu?
C'est la bonne question. Et la deuxième, c'est qui? Qui l'a tué?
Le procureur de Brioude est prévenu et les gendarmes ouvrent une enquête. Et la première chose qu'ils font, c'est d'aller voir la belle-sœur du curé, puisqu'elle l'a vu, le diable.
Il y a 2 détails que je peux vous donner. D'abord, il avait une cicatrice au front. Une belle cicatrice. Et puis, je suis certaine aussi qu'il lui manquait un petit doigt à la main gauche. Ça, j'en suis sûr aussi.
Mais il y a d'autres témoins. Notamment un homme qui s'appelle Firmin et qui est passeur sur l'Allier. C'est lui qui conduit la barque qui va d'une rive à l'autre de la rivière.
Moi, j'ai vu un homme ce soir-là. Il voulait prendre un bateau pour traverser. Mais moi, je n'ai pas voulu le prendre. Moi, j'ai vu qu'il avait un gros marteau en fer dans sa poche. Moi, ça m'a inquiété. Je n'ai pas voulu le laisser monter dans mon bateau.
Les gendarmes fouillent les rives alentour de l'Allier.
Hé ! Venez donc voir !
Le voilà, le gros marteau. Ou plutôt une masse couverte de sang.
L'arme du crime. Enfin, l'une des armes du crime, l'autre étant probablement un couteau qui a servi à l'éventration et à l'émasculation. Mais il y a encore d'autres témoins, et notamment un paysan d'un village d'à côté.
Moi, j'ai trouvé un homme qui dormait dans l'une de mes granges. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Il m'a dit qu'il était en route pour Issaint-Jour et qu'il aurait trouvé du travail là-bas, et qu'avec la neige et le froid, il s'était réfugié dans ma grange pour la nuit.
Très bien. Autre chose que vous auriez remarqué.
À mon avis, c'était un vagabond. Enfin, ses vêtements, j'ai tout de suite vu qu'il était misérable. Et ce qui m'a surpris pour le coup, c'est quand il a sorti une montre en argent de sa poche. Il voulait me la vendre.
Et vous l'avez achetée?
Acheter une montre en argent? Et avec quoi voulez-vous que je la paye? Mais bon, il m'a fait pitié, je l'ai fait venir chez moi pour qu'il se réchauffe et ma femme lui a fait à manger. Et c'est là qu'on a vu, ma femme et moi, qu'il lui manquait un doigt.
Un doigt?
Quel doigt? Le petit doigt, quoi. Et après, il a sorti une tabatière et il m'a proposé du tabac à briser. Mais là, je me suis dit, c'est pas bien normal. Elle est toute décorée, cette tabatière. Pauvre comme il était. Ça allait pas, quoi.
La tabatière dérobée au curé Rivet, évidemment. Il y a aussi un dernier témoin, Julien Dussart, l'horloger du village. Le voisin du curé, vous vous souvenez? Celui qui a débarqué le soir même au presbytère avec sa femme, parce qu'ils avaient entendu l'homme toquer à la porte du curé.
Oh, cet homme, je crois que l'ai reconnu à sa voix. Enfin, je suis presque sûr que je le connais. C'est un homme qui habite à Bava.
Bava, c'est un lieu dit de Saint-Arcon d'Allier,
un peu éloigné du bourg, mais pas tant que ça. Ça serait donc un homme du village, l'assassin du curé. En croisant le témoignage des uns et des autres, et surtout grâce à l'horloger qu'il a entendu parler et qui pense l'avoir reconnu, les gendarmes arrivent vite à un nom.
Bon, l'homme s'appellerait Mallet, Pierre Mallet, 35 ans. C'est sa famille qui habite à Bavin. Lui, d'après ce qu'on m'a dit, c'est un vagabond.
Et vous savez si aujourd'hui il est à Bavin, chez ses parents?
Non. Non, il n'y est pas, je vérifie.
Donc, il est en cavale. Les gendarmes diffusent son signalement à toutes les brigades du coin. Pierre Mallet, 1m58, un gros nez, une petite bouche, une fossette au menton et des sourcils épais. Le signalement précise qu'il a fait la guerre de 70 et qu'il a été fait prisonnier par les Prussiens. Et qu'il y a 3 ans, en 1879, il a été de nouveau mobilisé par l'armée, mais qu'il n'y est pas allé. Depuis, il aurait été déclaré insoumis. Et c'est donc pour ça qu'il n'habite plus chez ses parents, à Bavin. Il est en fuite. Assez vite, les témoignages affluent de tout le canton, et même au-delà.
Ah oh ben moi, il m'a dit clairement qu'il avait tué un curé. Oh, ça n'est pas caché du tout.
Moi, je l'ai recueilli dans un hangar chez moi. Bah, il savait pas où dormir.
Ah, moi, je connais que je l'ai fait rentrer chez moi pour boire un verre. Il faisait tellement de la peine. Un miséreux. Oh, si j'avais su.
Les gendarmes, naturellement, vont aussi voir sa mère à Bavin. Elle est veuve et elle a déjà un fils en prison. Le gamin a battu sa femme un peu fort. Et où est-il, votre fils, Pierre, madame?
Mon fils? Bah, de ci, de là, que sais-je, j'ai aucune idée d'où qu'il est.
Le gendarme se dit que sans doute elle ment, mais bon. Ça fait 2 mois maintenant que l'abbé Rivet a été tué. 2 mois que les gendarmes courent après ce Pierre Mallet en vain. Jusqu'à ce qu'un matin de février, un marchand de vin vienne les voir.
Bah, c'est-à-dire, j'ai lu dans le journal que vous cherchez un Mallet, hein, un Mallet qui aurait tué un curé. Ah bah moi, je crois savoir où il est.
Ah bon? Et où est-il alors? Il travaille comme terrassier sur un chantier à Issaingeau.
Issaingeau, c'est à 60 kilomètres de Saint-Arcon-d'Allier. Les gendarmes vont l'interpeller sur le champ. Et quand ils le ramènent à la gendarmerie, je peux vous dire qu'il y a foule pour le voir passer. Il aurait quand même étripé et découpé le service 3 pièces d'un curé. Voilà donc Pierre Mallet face au juge d'instruction.
J'y suis jamais allé, moi, à Saint-Arcon. Et le curé dont vous me parlez, là, je sais même pas qui c'est. Je l'ai jamais vu. Mais enfin, monsieur, j'ai sous les yeux tout un tas de témoignages qui vous impliquent dans le meurtre. Des gens qui vous ont vu à Saint-Arcon le soir où l'abbé Rivet a été tué. Ils décrivent un homme à qui il manque un petit doigt à la main gauche. C'est votre cas, non? Ben c'est vrai, oui. J'ai pas le petit doigt à la main gauche. Mais il n'y a rien d'autre.
Où étiez-vous fin décembre, début janvier, monsieur Mallet?
Ben après Noël, je suis été travailler sur le chantier du chemin de fer à Riotor. Ben regardez mon carnet de travail, hein. C'est écrit dessus.
On vérifie, et il ment. Il n'a été embauché sur le chantier du chemin de fer que le 7 janvier. Il a donc très bien pu tuer l'abbé Rivet le 3 janvier au soir.
Entrez.
Bonjour, monsieur le juge. Regardez ce qu'on a trouvé dans les bagages de monsieur, là.
Mais c'est la montre de l'abbé, ça.
Il y a ses initiales dessus.
Que fait cette montre dans vos bagages,
monsieur Mallet?
Ouais, je l'ai gagnée à la loterie.
Ah bon? Et quand?
En 1877, je crois.
On montre la montre à l'horloger de Saint-Arcon. Lui n'a aucun doute.
C'est la montre de l'abbé Rivet, j'en suis sûr. Il me l'a portée plusieurs fois à réparer.
On a aussi trouvé dans ses bagages un rasoir. Un rasoir bien effilé. Sans doute la deuxième arme du crime. Celle qui a servi à éventrer et émasculer le curé. On trouve aussi un pantalon taché de sang. Le juge lui met ça sous le nez plusieurs fois. mais Mallet est buté.
Je vous dis, j'ai pas tué le curé.
Mais le témoignage qui finit d'impliquer Mallet est celui d'une aubergiste d'un village voisin, Madame Béranger.
Moi, j'ai eu cet homme comme client.
D'accord. Et c'était quand?
C'était il y a 9 ans, en 73.
9 ans?
Mais enfin, en quoi ça peut nous intéresser que vous l'ayez vu dans votre auberge il y a 9 ans, madame?
Ah, attendez, je vais vous le dire. Ce soir-là, il était saoul comme un cochon. Et il a dit à la cantonade, je vous le dis comme il l'a dit, hein, « Je serai content quand j'aurai châtré un prêtre, nom de Dieu, je serai content d'éventrer un prêtre. »
Juste ciel. Il traînait donc ce projet fou depuis des années. Et donc ça ne serait pas le vol, le mobile, mais juste l'obsession de châtrer et d'éventrer un curé. Un autre témoin raconte qu'après le crime, quand on a commencé à en parler dans le journal, il a entendu Mallet dire
« Tuer un seul curé, oh bon, c'est pas la peine, il n'y a qu'à les tuer tous !»
Après ça, le juge n'a aucun doute. Ce Pierre Mallet est celui qui a tué le curé, qui l'a éventré, qui lui a tranché les roustons et qui a dépouillé tout ce qu'il avait. Il le renvoie donc devant la cour d'assises du Puy-en-Velay. Le procès s'ouvre le 26 juin 1882. Et je peux vous dire qu'il y a foule aux portes du palais de justice.
Mesdames et messieurs, inutile d'attendre pour entrer dans la salle. Seuls pourront pénétrer à l'intérieur ceux qui sont venus de cartes les y autorisant.
Quand Pierre Mallet entre dans le box, avec sa barbe qui n'a pas vu un rasoir depuis des semaines, on dirait un fou. Le procureur a prévu de faire défiler à la barre 42 témoins, qui tous à leur manière attestent que Mallet est l'assassin du curé. Le passeur du bac sur l'Allier, par exemple.
Ah oh ben je l'ai vu avec un gros marteau dans sa poche. Ça, je le jure. Merci, monsieur. Je veux rappeler ici que la blessure reçue à la tête par la Périvée a été faite par un instrument ayant la forme d'une massette. Autrement dit, un gros marteau, comme le dit monsieur. Ce que vous dites ici, monsieur, ne laisse aucun doute sur la responsabilité de Mallet. Et ce n'est pas la seule preuve que nous ayons à notre disposition. Poursuivez, monsieur le procureur général. Je rappelle que nous avons trouvé dans les bagages de Mallet un rasoir bien effilé, qui est sans nul doute l'arme qui a servi d'abord à éventrer la victime et ensuite à couper son sexe et ses bourses. Monsieur le Président, enfin je ne peux pas laisser dire cela, monsieur le procureur général. Chacun d'entre nous ici a un rasoir bien effilé chez lui. Et cela ne fait pas de nous des assassins. Certes, maître, certes. Mais à la barbe que l'accusé porte devant vous à l'instant, vous observerez que l'accusé ne fait pas grand usage d'un rasoir.
C'est l'avocat de Pierre Mallet, maître Monchamp, qui vient d'interrompre le procureur. Mais la barbe de l'accusé n'est pas son seul argument, loin de là. L'axe de sa défense est beaucoup plus politique.
Admettons que mon client, ainsi que semblant en attester les nombreux témoins soumis à la cour par le procureur général, soit coupable de ce crime affreux. Admettons. Mais la question se pose de savoir s'il est totalement responsable. Et si les vrais responsables ne sont pas tous ces républicains, cette presse pernicieuse et anticléricale qui vient chaque jour exciter les esprits contre les serviteurs de la Sainte Église catholique. Voici, monsieur le Président, un article paru récemment dans l'un de ces journaux infâmes. Voyez vous-même le titre. Mutilez-les donc. Eh bien, monsieur Mallet a entendu cet appel. Il a mutilé un prêtre comme on le lui demandait. Et dès lors, vous conviendrez qu'il n'est pas seul responsable et qu'il mérite des circonstances atténuantes.
Sur le plan intellectuel, L'argument est intéressant.
D'autant que selon plusieurs témoins, Mallet est un républicain acharné. Mais est-ce que ça peut toucher les jurés?
Ça, pas sûr.
D'autant que Mallet lui-même ne va pas du tout sur ce terrain politique. Sur son banc dans le box, il maugrait, il ricane, il grogne, il insulte. Il ne se tient pas bien du tout.
Oh ben, causez toujours. Moi, je vous dirai rien, tonnerre. Qu'on me pend, qu'on me coupe la tête, que le tonnerre écrase ma carcasse, si vous m'arrachez un seul mot.
Son avocat va alors le voir dans le box pour tenter de le calmer.
Il faut que vous soyez beaucoup plus posé, Mallet. Répondez aux questions qui vous sont posées. Dites les choses comme vous les avez ressenties.
Mais les bons conseils de Maître Monchon ne servent strictement à rien.
Vous retournez tout contre moi. Vous voulez tout pour vous. Il n'y a jamais eu d'assassin dans ma famille. Qu'on me guillotine, ce sera à tort. J'ai jamais possédé cette tabatière et la montre, et même appartenait.
Au terme de 2 jours d'audience, les jurés se retirent pour délibérer. Ça ne dure que 20 minutes. Et l'issue est absolument sans surprise.
En conséquence, la cour, en ayant délibéré, condamne Pierre Mallet à la peine capitale et ordonne qu'il ait la tête tranchée en place publique.
Et voilà, sur le papier, ça finit. Il n'y a plus qu'à attendre l'exécution. Trois jours plus tard, une nonne se présente au bureau du procureur de la République.
Monsieur le procureur, voilà, je m'appelle Virginie Mallet et je suis la petite sœur de Pierre Mallet. Je suis religieuse dans un couvent de Brioude. Je souhaiterais rencontrer mon frère avant son exécution.
Et pourquoi donc, ma sœur ?
Eh bien, pour qu'il avoue son crime devant Dieu.
Très bien. Dès lors, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais je mettrai tout de même une condition. Je veux être présent quand vous le verrez.
Ce que la sœurette de Mallet a en tête, c'est de lui éviter autant que faire se peut les flammes de l'enfer.
Dites-moi les choses, mon frère. Je vous en conjure. Il vous reste une chance de sauver votre âme. Une seule. Et je viens vous la proposer. C'est maman qui a tué le curé. Mais c'est pas moi qui ai volé sa tabatière et sa montre. Et la masse qu'on a retrouvée, c'est pas non plus celle que j'ai utilisée. La mienne était beaucoup plus grosse. Mais oui, c'est pas moi qui ai tué le curé.
Sa nonne de sœur a donc eu ce qu'elle voulait. Dans un coin, le procureur général jubile. Il l'a avoué. Devant Dieu et pas devant la justice, mais peu importe. Jusqu'à l'exécution, tous les jours, sa sœur vient prier avec lui. Elle écrit elle-même au président de la République, Jules Grévy. Il a déjà accordé plusieurs fois sa grâce à des condamnés à mort. Mais pas cette fois-ci. C'est le procureur général lui-même qui vient annoncer la nouvelle à Mallet le matin du 28 août 1882 à 3h.
Pierre Mallet, je vous apporte une terrible nouvelle. Votre pourvoi en cassation a été rejeté. Et votre recours en grâce l'a été également. Mallet, maintenant, il ne vous reste plus qu'à mourir.
Pierre Mallet demande alors à ce qu'on fasse venir l'aumônier de la prison. Leur tête-à-tête dure 1h30.
Mallet, voulez-vous quelque nourriture avant de mourir?
Non.
Un verre de rhum, peut-être? Le rhum, oui. Je veux bien. Je peux en avoir un autre.
Le prêtre l'accompagne jusqu'au pied de la guillotine, place du Foirail, au cœur de la vieille ville de Puy-en-Velay, juste derrière le tribunal. Il y a un monde fou. Mallet, lui, s'accroche au bras de l'aumônier. Au dernier moment, il se rebiffe. Il ne veut pas y aller. Le bourreau d'Eblaire doit le traîner jusqu'à la guillotine. Et... comme toujours à cette époque-là, dans la foulée de l'exécution, les journaux publient une complainte sur cette affaire. À charge pour les bonimenteurs d'aller la chanter partout alentour. Le scélérat qui est lâche et traître, l'abominable bourreau, assomme à coups de marteau, le doux, le bienfaisant prêtre, le charitable pasteur, l'ami du laboureur.
Vous avez aimé cette histoire ? Christophe Ondelatte vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.